God is so good. Et ce message va être prêché en français. Éphésiens chapitre 4. Nous sommes en train de parler de PDF. Penser, dire, faire. Il y a des choses qui constituent réellement le fondement de nos vies, le pilier de tout ce que nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Si les gens comprenaient ce verset, cela réglerait les trois quarts des problèmes pastoraux. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons disséqué ce passage la semaine dernière, nous l'avons décortiqué hier à la prière. Nous avons compris une chose, nous avons compris que nos vies sont dirigées par nos pensées. Nous marchons selon nos pensées. Et que lorsque nous n'étions pas avec Christ, nos pensées étaient des pensées vaines, des pensées futiles. La parole de Dieu, par ailleurs, nous parle de ceux qui ont un sens réprouvé. Dans Romains 1, 28, c'est toujours le même sens que nos pensées. Éphésiens 4, vanité des pensées, intelligence obscurcie. Dans 2 Corinthiens 3, verset 14, il parle de ceux qui ont l'entendement endurci. Colossiens 2, 18, des pensées charnelles. Et nous étions de leur nombre. Et donc, nous avions l'intelligence obscurcie, des pensées charnelles, en sens réprouvé, l'entendement endurci. Not very pretty. Des pensées très charnelles. Et la parole de Dieu nous dit que tout cela appartient au vieil homme. Et maintenant que nous sommes en Christ, nous avons appris différemment les choses de Christ. Donc, en Christ, nous devons maintenant revêtir l'homme nouveau en nous laissant renouveler dans l'esprit de notre intelligence. En d'autres termes, nous ne devons plus maintenant fonctionner comme nous fonctionnons dans le monde, avoir les mêmes pensées que nous avions et nous laisser diriger par toutes ces pensées charnelles, toutes ces pensées infructueuses, avec par ce sens réprouvé par ces pensées décadentes qui conduisent à la dissolution et au péché de tout genre. Vous ne devez plus. Oui, mais pourquoi on me dit ce que je dois faire? Parce que la parole de Dieu dit, vous ne devez plus. Oui, mais pasteur, j'estime que j'ai ma liberté. Non, toi, la liberté de pécher ou la liberté de ne pas pécher. Fais le choix. Et la parole de Dieu, donc, nous invite à changer notre manière de penser. Nous avons vu dans Proverbe, que nous sommes censés garder notre cœur parce que de là viennent les sources de la vie. Je vous ai lu d'autres traductions qui nous disent littéralement que nous devons garder nos pensées parce que nos pensées, nos vies sont contrôlées par nos pensées. Et vous savez, c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé. Que nos pensées dirigent nos vies. Et aussi que nos pensées, en réalité, amènent un changement structurel dans le cerveau et conduisent à la libération de substances chimiques dans nos corps. Substances qui peuvent provoquer le stress et la maladie ou qui peuvent provoquer la tranquillité, la paix, la joie. Dieu sait de quoi il parle. Ce sont des choses que nous sommes en train de découvrir, mais que Dieu savait déjà. Que nous devons changer notre manière de penser. Changer notre manière de penser. Mais la parole de Dieu est excellente parce qu'il nous dit que nous avons la pensée de Christ. En d'autres termes, la provision est déjà faite pour que nous puissions avoir des pensées qui correspondent aux pensées de Dieu et qui permettent à ce que l'action de Dieu soit efficace dans nos vies. Et que je vous ai expliqué la semaine dernière que 90% de ce que Dieu va faire avec votre vie, dans votre vie, va faire avec votre coopération, pas malgré vous. Nous sommes champions dans l'Église, de vouloir que Dieu fasse malgré nous, que Dieu me bénisse malgré moi, Que Dieu m'enrichisse malgré moi. Que Dieu me rende puissant spirituellement malgré moi. Il y a un appel sur ma vie, mais je ne prie pas. Je n'ai pas de communion avec Dieu, mais il faut qu'il agisse puissamment à travers moi. Je ne demande jamais la sagesse, mais je veux pouvoir dire à quelqu'un, c'est comme ça et que ce soit comme ça. Non. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'exercent sans avoir fait le nécessaire dans leur vie pour être équipés pour exercer et finissent par détruire les gens. Donner des conseils qui ne correspondent absolument pas à la volonté de Dieu, voir des révélations qui ne viennent pas du Seigneur. Oui, mais le Seigneur m'a montré. C'est pas parce qu'en fait, dans la prière, que c'est réellement Dieu qui a montré. Nous avons besoin de changer notre manière de penser. Dans Proverbe 15, 26, il nous dit ceci. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Nous avons vu par ailleurs dans Matthieu 15, verset 18 au verset 19, où Jésus nous explique que ce qui nous pollue, c'est ce qui vient de l'intérieur. Et il a dit, texto, les mauvaises pensées. Donc la corruption vient de l'intérieur. Les mauvaises pensées nous polluent, nous corrompent, sont une souillure. Et les mauvaises pensées sont un péché. C'est un péché des plus néfastes. Pourquoi? Parce que c'est un péché qui est caché. Si madame ici décide d'emménager avec quelqu'un contre la volonté du Seigneur, nous saurons tous. Tout le monde, mais tu ne peux pas faire ça. Mais quand tu fais ça, mais toi, c'est la faute de Dieu. Mais c'est toi qui a prié pour moi et j'ai changé de vie. Et maintenant, toi, comme témoignait tout à l'heure notre lituanienne favorite. Donc, vous allez appeler vite pour dire, mais comment tu ne peux pas faire ça? Christelle va dire, mais toi, priez pour moi. Mais tu m'as montré le chemin, mais toi, maintenant. Donc, elle témoignait des gens qui l'avaient emmené au Seigneur, d'ailleurs, et qui, eux, sont retournés dans le monde. Et il faut savoir jusqu'où on suit les gens. À un moment, on dit, ciao, je t'aime vraiment. Non, j'aime Jésus. Je vous ai partagé comment une personne qui faisait partie des gens qui m'avaient prêché l'évangile, à l'époque où j'étais, mais réfractaire. Et qui m'a appelé un jour, il y a quelques années de cela, qui habite maintenant à Londres, il m'a appelé. Et il avait plus ou moins rétrogradé. Et je l'ai exhorté vivement. Il ne savait même pas que je m'étais convertie entre-temps. Et il était épaté parce que le souvenir qu'il gardait de moi, c'était cette personne, paf, 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 contre l'évangile, contre les chrétiens, contre la Bible. Et quand je commençais à lui parler du Seigneur, à l'exhorter, elle était bouche bée. Il faut savoir jusqu'où on suit le Seigneur. Donc, si elle devait, je n'ai pas oublié, si elle devait maintenant faire quelque chose de terrible, de grave, tout le monde serait là, Bobo va appeler. Mais non, mais tu ne peux pas faire ça. Mais toi qui as prié pour moi, mais toi qui m'as tenu par la main, mais tu te souviens que moi j'étais tendue et tout le monde va être là. Mais non, et on va dire, on va faire des jeûnes et des prières pour elle. Et on va jeûner toute la nuit. On va jeûner encore le lendemain. Et après, on va dire, bon, on va manger. Hein. Chacun sa vie, chacun fait ses choix. Et on va jeûner jusqu'à un moment, au bout d'un moment, bon, chacun vit sa vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il y a des péchés qui sont ouverts, des péchés qui sont visibles et qui donc sont très graves. N'est-ce pas? Et donc, si elle commençait à dire certaines choses, comme il y a des gens qui pêchent allègrement avec leur bouche, c'est incroyable. Les choses que les gens sont capables de dire, c'est fou. Mais ils sont l'esprit de Dieu, ils ne sont pas convaincus de péché. Wow! Tu dis tout ça? Mais vous, ça aussi, vous en êtes conscient. Quelqu'un vient vous dire des choses. On dit, mais cette Justine-là, hein, cette fille. Et ce que je dis toujours ici, c'est que quand quelqu'un a été une bénédiction pour vous, cette personne devient sacrée. Et Justine est devenue sacrée pour toi. Où que tu ailles, quel que soit ce que tu fais, les gens cassent du sucre sur elle, tu n'as pas le droit. Déjà, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit. Mais même en dehors de ça, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été une bénédiction pour ta vie. N'est-ce pas? Elle ne va pas rétrograder, mais même si elle devait rétrograder, tu es dans l'obligation maintenant de jeûner et de prier pour elle. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et donc, quelqu'un vient dire du mal d'être. Wow! Tout de suite, tu es conscient du fait que, waouh, on a péché. Mais quand on pêche dans nos pensées, nous sommes les seuls à le savoir. N'est-ce pas? Et quand on sait que même des grands serviteurs de Dieu, qui malheureusement ça arrive, tombent dans le péché, continuent, jusqu'à ce que d'autres le sachent. Ce qui veut dire que le regard des autres parfois nous pousse à prendre conscience de nos manquements. Mais il n'y a pas de regard dans nos pensées. D'où l'importance de décider nous-mêmes que nous allons surveiller nos pensées, que nous allons renouveler notre intelligence. Parce que dès qu'on se laisse aller, on peut faire tout, on peut penser à toutes sortes d'erreurs et arriver le dimanche matin, « Oh, pasteur, j'ai prié pour vous dans la semaine. » Là, vous étiez assis à quatre à me déchiqueter. N'est-ce pas? Et parfois, vous voyez les gens commencer à dépérir. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Vous savez ce qui leur arrive? Les pensées mauvaises. Ou parfois, vous avez quelqu'un qui était là, « Wow, oh, t'étais mon super, ma soeur, je t'aime à fond. » Et tout d'un coup, « Bonjour, mais qu'est-ce que je lui fais ?» Les pensées mauvaises. Et il y a un mur entre vous. Il n'y a plus cette liberté. Maintenant, il y a un mur. Et ce mur, et on dit, mais je ne comprends pas, mais on ne s'est rien dit, on n'est pas fâché. Non, mais il y a un mur. Et ce mur est un mur qui a été érigé par les pensées mauvaises. Une de ces personnes a des pensées mauvaises. Et il n'y a plus de liberté. Quand vous êtes prophétique, vous sentez parfois cela. Vous rapprochez des gens, vous sentez comme vous avez l'impression de vous cogner contre un mur. Wow! Et c'est parce qu'il s'est passé des choses à l'intérieur. Nous pensons que les pensées n'ont pas de forme. Nos pensées ont des formes. Nos pensées occupent de l'espace dans notre tête. Ça a été scientifiquement prouvé. Nos pensées amènent un changement structurel dans le cerveau, occupent de l'espace dans nos têtes. Il y a des gens, leur tête bondée de différentes créatures. J'insiste sur cela parce qu'il faut que nous prenions conscience de l'importance de ce qui se passe à l'intérieur, de l'importance de ce qui se passe quand nous nous asseyons pour commencer à réfléchir. Ce que nous pensons à l'intérieur, c'est ce qui conduit nos vies. On a vu par exemple ces gens qui pensaient qu'ils pouvaient très bien mourir pour Jésus, où était le problème? Et ils étaient capables de le faire parce qu'ils l'ont pensé. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu une grâce supplémentaire par rapport à nous, c'est parce que leur schéma de fonctionnement, leur schéma de pensée est différent du nôtre. Notre schéma de pensée, c'est vivement que Dieu me donne ce que je veux. Hein. Parce que si je vais là-bas et que cette semaine passée ne prophétise pas sur moi, je ne retourne pas là-bas. Alors, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que moi je sois content. Et c'est notre schéma de pensée. Donc, à partir de ce schéma de pensée, nous jugeons la réalité. Et nous faussons la réalité parce que nous filtrons la réalité à travers notre structure mentale. Et cette structure mentale ne correspond pas toujours à la parole de Dieu. D'où la nécessité pour nous de ne plus marcher selon la vanité de nos pensées. Alléluia! Est-ce que vous commencez à saisir l'importance de nos pensées? Et vous avez trois catégories de pensées. Il y a les pensées que vous avez sur vous-même, les pensées que vous avez sur les autres, les pensées que vous avez au sujet de Dieu. Ce que vous pensez de Dieu est ce qu'il y a de plus important. L'image que vous avez de Dieu est la chose la plus importante de votre vie. Parce que l'image que vous avez de Dieu va changer votre façon de penser aux autres et votre façon de penser de vous-même. Lorsque nous avons fait la série sur Éphésiens, on s'est attardé longuement sur cette série. Parce que dans cette série, dans la première partie d'Éphésiens, nous voyons la pensée de Dieu nous concernant. Et en réalité, sur en quoi consiste ce nouvel homme dont il est question. Et beaucoup de chrétiens continuent à vivre dans le désert parce qu'ils n'ont pas assimilé les premiers chapitres d'Éphésiens. Ils n'ont pas assimilé la nature de Dieu, la personne de Dieu, qui Dieu est, comment il est et ce que Dieu a fait maintenant, ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Et quand nous comprenons que nous commençons à voir Dieu tel qu'il est, non pas tel que nous voulons qu'il soit. Pour beaucoup de gens, Dieu, c'est le Père Noël au ciel. Si ce n'est pas le Père Noël au ciel, c'est le majordome céleste. C'est très réducteur tout ça. Et beaucoup de chrétiens ont ce rapport utilitaire avec Dieu. Réducteur. Quand Dieu veut que nous ayons ces pensées, c'est parce que nous avons été faits pour vivre en communion avec Dieu. Nous avons été faits pour penser comme Dieu, pour parler comme Dieu, pour agir comme Dieu. C'est ça notre destinée. Vous me suivez? Ce n'est pas pour que je sois en accord pour lui, pour que je puisse recevoir ma maison. Non, c'est plus que ça. Alléluia. C'est reprendre ce que Dieu a fait sa part en venant à nous en Jésus, en nous rachetant, en nous réconciliant avec lui-même. Maintenant, nous faisons notre part en renouvelant notre intelligence pour que nous puissions réellement commencer à marcher avec Dieu comme Adam marchait avec Dieu avant la chute. À être en phase avec Dieu, corps, âme et esprit. Et que nous ne passons pas nos vies à essayer de gérer le péché. Pour beaucoup de chrétiens, l'évangile, c'est la gestion du péché. C'est le moyen de tout faire pour ne pas pécher, le moyen de tout faire pour ne pas tomber, le moyen de tout faire pour... Non, l'évangile, ce sont les retrouvailles avec Dieu. les retrouvailles avec Dieu, donc grandir, donc changer notre manière de penser pour entrer vraiment dans une réelle harmonie, une entente divine. Une vraie entente avec Dieu, où je ne suis pas en train de penser tout le contraire de ce que Dieu pense. Et quand je pense à Christelle, je ne devrais pas avoir des pensées à son égard qui sont à mille lieues de ce que Dieu pense d'elle.
Amen.
Juste parce qu'elle ne m'a pas regardée hier quand je passais à côté. Après, c'est mal le pasteur. Non, mais vraiment, cette fille, on va l'exploser d'abord. Si les gens viennent ici et qu'ils ne prennent pas conscience de mon importance, je ne dois pas avoir à l'égard de Dieu des pensées différentes de ce qu'il est réellement. Je ne dois pas le traiter comme un sugar daddy. Vous connaissez les sugar daddy? Les francophones ne connaissent pas les sugar daddy? C'est quand les jeunes filles sortent avec des hommes d'un certain âge, parce qu'ils ont de l'argent. Dans les cultures anglophones, on parle de sugar daddy. Donc, surtout les filles qui venaient de milieux modestes, parce qu'on était à la fac, les filles qui venaient de milieux modestes, qui voulaient aussi s'habiller comme les filles qui venaient de milieux plus favorisés, et qui voulaient aussi, parce que c'était quelque chose, vous voyez, le matérialisme. Ici, les gens sont très cool à la fac. Nous, à la fac, on vous regardait, on calculait le prix de tout votre ensemble. Et si c'était acheté à Londres ou au marché de Lagos. Donc, les filles, donc, commençaient à sortir avec des hommes plus jasés pour l'argent. Donc, c'était ça. La relation était purement utilitaire. C'était une question d'argent. Et beaucoup de gens voient Dieu comme leur sugar daddy. C'est juste, oh Seigneur, je t'aime. Maintenant, j'ai besoin de ça, 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 j'ai besoin de ça. Et je tique sur ma liste et s'il continue à me donner ce que je veux, la relation est bonne, tant que là, il y a ça, 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 qui n'est pas bien. Alors, là, non. Alors, non, 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 il n'est pas en train de remplir le contrat. Non. Une entente parfaite. Nous allons vers une entente parfaite avec Dieu. Notre vie sur terre doit tendre vers une entente parfaite avec Dieu. Donc, ce que je pense à son égard représente ce qu'il est. Évidemment, nous grandissons dans la révélation de Dieu, mais je grandis constamment, je commence à le voir comme il est, pas comme je voudrais qu'il soit. Parce qu'en réalité, ce que je voudrais qu'il soit n'est pas aussi bon que ce qu'il est. Amen. Vous suivez? Et dans mes pensées à l'égard de Flo-Flo ici présente, je dois la voir avec les yeux de Jésus, même quand elle m'exaspère. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Eh oui. Mes pensées à son égard doivent correspondre aux pensées de Jésus. Et mes pensées à mon égard doivent correspondre aux pensées de Dieu à mon égard. Et vous devez vous voir quand Dieu vous voit, au point où vous êtes capable de saisir tout ce que Dieu veut vous donner. Vous êtes capable de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Et vous n'êtes pas là, comme nous a témoigné notre lituanienne préférée, a dit, « Je ne peux pas. » Et moi, je regarde les gens qui sont comme ça, je dis, « Mais tu veux conquérir la France pour Jésus? Et tu es incapable de faire un clip vidéo ?» Il faut voir les échelles quand même. Et me voir comme il me voit. Et me voir en mesure d'être et de faire ce qu'il dit que je suis en mesure d'être et de faire. Y compris pardonner à quelqu'un qui m'a vexé. Parce que nous sommes là, ah ouais, Seigneur, envoie-moi à Besançon. Je vais prêcher. Je vais partir des églises. Je vais toucher ma génération. Le Seigneur dit, ouais, ça c'est bon, Henri. Mais d'abord, tu vas pardonner à ce Seigneur. Ah non, ah là non. Un peu, non, je ne peux pas lui pardonner. Seigneur. Non, parlons de Besançon. Parce que, non, non, tu vas d'abord pardonner à ce Seigneur. Pas arrière de moi, Satan. Tu ne veux pas que j'aille servir Dieu à Besançon. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Et la personne, quand on dit, on va prier pour Besançon, dis-moi, elle est spirituelle, la sonne, elle est en train de fuir la voie de la conviction. Il faut que nous commencions à nous dire, je dois penser comme Dieu pense. Je dois penser de moi-même comme Dieu pense de moi-même. Quand Dieu dit, tu es prédicateur, je dis, non, oh, non, moi je suis actrice. Non, tu vas annoncer à Hollywood peut-être, mais à Paris. Non, tu vas prêcher l'évangile. Non, Seigneur, je t'aime. Comme je disais au Seigneur, laisse-moi aller en Angleterre. Je vais lier tous les démons des îles britanniques. Nous, on va laisser ceux qui sont en France. Ah non! Ceux-là, on les laisse aux Lituaniens. Nos pensées sont très importantes, les schémas de pensée. Nous devons faire attention à ces schémas de pensée. Il y a une distinction à faire entre les suggestions, les pensées et les schémas de pensée. Et tout le monde a reçu des suggestions. Nous allons parler la semaine prochaine. Nous avons le temps et je veux réellement que ce message nous travaille. Et après, on va se lancer un défi pendant 3 semaines pour changer notre manière de penser.
Amen.
Glory to God.
Amen.
Glory to God.
Amen.
Et nous allons voir quelles sont les sources de ces pensées. Je pense qu'on ne va pas pouvoir voir cela aujourd'hui, mais certaines vous connaissez déjà. Donc, il y a des suggestions qui vous viennent. Il y a du favoritisme dans l'équipe de louanges. Je dis, Flo qui vient d'intégrer, qui ne sait même pas chanter. Maintenant, on la met à chanter et toi, tu ne chantes pas. Suggestion. Elle a la possibilité de faire. Ouais. Non, mais on la met à chanter. Bon, c'est pas grave, c'est ma sœur. Hein. Si elle chante, le Seigneur me place où il veut. Et après, la suggestion revient. Et après, elle fait, En tout cas, Seigneur, je suis entre tes mains. Je compte sur ta faveur. Après, la suggestion revient. En tout cas, je sais que tu vas me rendre justice ici. Tu vas me rendre justice ici. Parce que maintenant, on met une personne à chanter qui ne sait pas chanter. Et moi, on me dit, tu vas jouer au tam-tam. En tout cas, je vais jouer sur tam-tam pour ta gloire. Après, la suggestion revient, après, on s'installe. Mais tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait, semaine après semaine, pour aller jusqu'à Rony là-bas. Rony. Le fin fond du monde, Rony. Je pense même au jour où j'ai raté mon dernier RER. Ça m'a coûté 25 euros pour rentrer chez moi. 25 euros. Et le pasteur ne m'a pas remboursé. En tout cas, Seigneur, c'est toi que je sers. Quand t'as cette Flo. Les gens qui ne savent pas chanter, qui s'improvisent chanteurs. En tout cas, il n'y a pas de gloire qui va sortir de là. Ah, parce que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. On veut tuer mon étoile. Et c'est Béa là qui me dit que je suis sa petite sœur. C'est ça, les grandes sœurs. Je me doutais qu'elle allait me faire le coup. Parce qu'après tout, Antel m'avait dit de me méfier. Moi, dans la bonté de mon cœur. Ah, les chrétiens sont terribles. Abba House. La maison du Père. Et le Père dans tout ça. Ah, Père, où tu es? Dans ta maison, mon Dieu, dans ta maison. En tout cas, la sœur Intel m'avait dit, elle m'avait dit quand elle partait. Elle m'a dit que Dieu a écrit Ichabod. Les nouveaux chrétiens ne savent pas ce que c'est. Ichabod. La gloire est partie. Qui s'appelait Ichabod? Le petit-fils d'Élie. Lorsque Élie et ses deux fils sont morts le même jour, et sa belle-fille a accouché, elle a appelé l'enfant Ichabod. En d'autres termes, la gloire est partie d'Israël. Et donc, on part d'une suggestion, on arrive à une pensée. Et quand la pensée persiste, ça finit par créer un schéma de pensée. Et donc, tout est filtré à travers ça. Toute remarque, tout commentaire qui lui sera fait, « Ah, en tout cas, on ne veut pas de moi ici. » Bon, écoute, ça ne t'ennuie pas de venir à 8 heures pour ranger. Ah, c'est à moi qu'on va demander ça. Venir à 8 heures pour ranger. On ne demande pas aux autres. De toute façon, je sais qu'on ne veut pas de moi ici. Seigneur, ta gloire. Que ta gloire ne quitte pas cette maison. En dépit de tout ça. Tout ça, c'est quoi au juste? Tout ça, c'est les pensées. N'est-ce pas? Je donne un exemple auquel nous pouvons nous identifier. Mais la même chose se passe partout. La même chose se passe au travail. La même chose se passe à la maison. La même chose se passe dans les familles. La même chose se passe au sein des couples. Une suggestion devient une pensée qui devient un schéma de pensée. Mais une suggestion n'est pas empêchée lorsque quelque chose vous vient et vous dit « Ah non, 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 non. Ah non, 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 ça, ce n'est pas ma pensée, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Ah non, non, il n'est pas question que j'accepte ça. » Vous bannissez la suggestion. Elle revient, vous la bannissez. Au bout d'un moment, le diable comprendra, il vous laissera tranquille. Il va chercher quelqu'un d'autre. Il va aller voir Edwige. Alléluia! C'est comme ça! Non, 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 non! Non, 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 non! La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, ouvrez avec moi dans 2 Corinthiens. Chapitre 10, c'est un verset que nous connaissons. Je vais évoquer avec vous rapidement quelques schémas de pensée. Nous en avions vu la semaine dernière. Nous avons parlé de... Vous vous souvenez? Oui, la mentalité de victime, oui. La crainte, la peur. Là. Un esprit de jugement, de calomnie, n'est-ce pas? La rébellion. Et ce sentiment d'être toujours incapable. Tout est impossible. Comme on dit en anglais, impossibility thinking. N'est-ce pas? Notre lituanienne a un peu témoigné à ce sujet. Tout est difficile, tout est compliqué. Rien ne pourra se faire. La parole de Dieu nous parle du fait que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Il y a un combat, et ce combat se situe dans nos pensées. Vous allez livrer différents combats dans votre vie chrétienne, mais il y a un combat dans les pensées. Votre intelligence, votre pensée, the mind, comme on dit en anglais, est un champ de bataille. Et il incombe à chaque enfant de Dieu de décider que c'est moi qui gagne. C'est la parole de Dieu qui va remporter la bataille. Vous pouvez vous asseoir et laisser le diable injecter tout ce qu'il veut dans votre tête. Vous pouvez décider, comme a fait Madame ici présente, « Ah non, 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 non. » Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il y a des chrétiens qui prennent ce verset pour dire « Ouais, on va renverser tous les esprits qui sont sur Paris. » Il y a des esprits sur Paris. C'est la raison pour laquelle nous avons vu, par exemple, lorsque nous parlions des sept églises, à quel point certaines églises étaient affectées par ce qui se passait au sein de leur société. Et les esprits démoniaques qui influençaient la société influençaient aussi ces églises. Mais une église est censée se soustraire aux activités démoniaques. Nous sommes influencés par la parole de Dieu, point. Mais quand il parle ici, donc nous n'oublions pas le fait qu'il y a des esprits, la parole de Dieu nous parle des esprits mauvais, n'est-ce pas? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce dont il est question ici, c'est la pensée humaine. Des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, dites captive.
Captive.
Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est notre décision, de faire en sorte que nos pensées soient obéissantes envers Jésus. Et quand nous allons voir l'impact des pensées sur nos vies, je pense que beaucoup d'entre nous allons commencer vraiment à revoir nos copies. Et à comprendre que les choses dont nous avons tenu les autres pour responsables, elles ne sont peut-être pas responsables. Ils ne sont peut-être pas responsables. Et que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres me font, c'est ma manière de réagir. Et ma manière de réagir est intimement liée à mon schéma de pensée. Dans Chronique 4, du verset 9 au verset 10, je vais vous lire cela. Jabez fut plus honoré que ses frères. Certaines traductions disent plus honorable. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Alors, commencer la vie avec un nom qui veut dire souffrance et douleur. Il y a de ses parents, franchement, il faut prier pour eux. À cause des noms qu'ils donnent à leurs enfants. Ichabod. Ouais, cet enfant qui s'appelle la gloire est parti. La gloire est partie. Comment t'appelles la gloire est partie? Comment t'appelles la gloire est partie? Il ne reste pas d'avoir beaucoup de gloire sur sa vie. Pourquoi pensez-vous que Dieu a changé le nom d'Abraham? pour changer sa façon de se voir, pour qu'il puisse recevoir ce que Dieu avait pour lui. Jabez fit appel au Dieu d'Israël. Jabez avait compris qu'il était mal parti. Avec un nom comme ça, il était vraiment mal parti. Mais cet homme n'est pas resté dans une mentalité de défaite. Parce que ça, c'est une autre mentalité que nous avons, un schéma de pensée. Défaite et échec. Il y a des gens qui s'attendent toujours à une défaite, s'attendent toujours à un échec. Lorsque vous priez pour leur guérison, ils ne s'attendent jamais à être guéris. Lorsque vous priez pour leur bénédiction, ils ne s'attendent jamais à être bénis. Ils s'attendent toujours à ce que ça ne marche pas pour eux. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans l'église. Vous voulez vous prêcher sur la foi? Amen, alléluia. Et ils s'attendent d'avoir la sœur bénie. Mais quant à eux, et vous passez beaucoup de temps à essayer de les convaincre qu'ils ne font pas exception à la bonté de Dieu. Et Jabez avait compris qu'il était mal parti. Et lui, il a décidé de défier les circonstances et de faire appel à Dieu. Et c'est ce que chaque personne devrait dire, changer sa manière de penser. Jabez a dit ceci. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. » Il y a des gens qui disent, « Mais moi, je ne peux pas, il y a des barrières, je reste là, je peux aller plus loin. » Vous pouvez aller plus loin. Vous n'êtes pas convaincu. Vous pouvez aller plus loin.
Amen.
Vous pouvez aller plus loin. Jabez avait compris, il a dit, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. » Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ça, c'est un homme qui voyait grand. Et il y a beaucoup de gens qui ont une mentalité de petitesse. Vous dites, nous allons faire ça. Oh, ça! Dès qu'on est confronté à une difficulté, parce que moi, tu vois grand. Pensez grand. Jabez pensait grand. Il a osé défier les circonstances de sa naissance et imaginer autre chose pour sa vie. Il a demandé à Dieu et Dieu a répondu. Il y a des gens qui ont besoin de défier les circonstances de leur naissance. Et parfois, les circonstances de notre naissance créent des schémas de pensée en nous. Vous voyez, par exemple, des gens qui ont vécu dans la pauvreté. Le grand-père était pauvre, l'arrière-grand-père était pauvre, le père était pauvre, et eux aussi, ils seront pauvres. C'est, pour eux, c'est génétique. Génétique. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Ils ne se voient pas aller plus loin. Ah oui, mais c'est dans notre famille, personne ne fait des choses comme ça. Qu'est-ce que ça change? Que personne ne les fait jusque-là, ça peut commencer avec toi.
Amen.
Et il y a une mentalité de pauvreté souvent qui assaille les gens. Et ils sont là parce que c'est comme ça dans notre famille ou parce qu'on a essayé, on n'y est pas arrivé, après on s'est résigné. La résignation n'est pas du Seigneur. Vous imaginez si Dieu se soit résigné à ce que les hommes soient pécheurs, sans pécheurs. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Il ne médite que du mal du matin jusqu'au soir. Lisez Romains 1, 2, 3. Vous allez voir à quel point l'être humain est pervers. Et le constat que Dieu fait. Il aurait pu dire, écoute, on a tout essayé. Il a envoyé des prophètes, ils les ont tués. Il a envoyé des saints personnages, ils les ont mordus. Donc, elle est désespérée. Et beaucoup de gens vont dans la résignation. Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein? Non, ce n'est pas comme ça. Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, vous ne devez pas vous y résigner. Et ce qui fait que quand Dieu amène une idée divine, on ne saisit même pas. Ouais, mais tu sais, nous. Ensuite, il y a des gens qui ont une mentalité de pauvreté. Pourquoi? À cause de leur doctrine. C'est toujours émerveillé où les gens ont vu que Dieu voulait qu'ils soient pauvres. Dès qu'on dit ça, ouais, mais Dieu ne veut pas que tout le monde roule en Rolls-Royce. Est-ce que je roule en Rolls-Royce? Est-ce qu'on part d'un extrême à un autre? L'extrême, c'est oh, nous sommes là, Seigneur, tous pauvres et malheureux et sanctifiés. C'est ce que tu veux. Dès que vous dites, mais non, Dieu n'a aucun intérêt à ce que tu sois pauvre. Pourquoi Dieu voudra que l'on soit pauvre? Il n'est pas pauvre lui-même. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Je veux dire, au ciel, le trottoir, c'est de l'or. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. L'argent n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est important pour lui, comme nous. Donc, il garde précieusement. Il va te donner parcimonieusement parce que c'est te donne. Ça n'a aucune valeur à ses yeux. Et c'est parce que nous avons une mentalité de pauvreté que nous imaginons que, waouh, l'argent, aucune valeur. C'est des bouts de trottoir. Et quand on comprend cela, on ne peut pas avoir une mentalité de pauvreté. Donc, il y a des gens qui, sur le plan doctrinal, ont une mentalité de pauvreté. Ils vont surveiller tous les chrétiens. Ils vont voir, oh, pasteur s'habille bien. J'ai quelqu'un déjà faire cette remarque ici. Je dis, mais tu n'as encore rien vu, mon enfant. Mais quelle idée! Pensez que nous servons le Dieu qui a créé les cieux et la terre et ce paysage extraordinaire et magnifique qui existe et que quelque part, il voudra que sa créature soit pauvre. Ça n'a même pas de logique. Mais il y a des gens, c'est ça leur doctrine. La parole de Dieu nous dit de ne pas avoir l'amour de l'argent et de ne pas poursuivre la richesse. Quand les gens poursuivent la richesse, ils se corrompent. Et ça, c'est une autre mentalité dont il faut se défaire. Un autre schéma de pensée, le matérialisme. Tout est question de fric. Je ne côtoie des gens qui s'habillent comme moi. Je ne côtoie que des gens. Dès que je regarde, je fais... Dior, Chanel, alors c'est Armani. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Et mes relations sont basées sur ce que je peux obtenir matériellement. Est-ce que je peux obtenir un contrat? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et je vais dans telle église parce qu'il y a des hommes d'affaires là-bas. Comme ça, on va pouvoir faire des affaires entre nous. Je vais faire des contacts. Le matérialisme, ça c'est encore un autre schéma de pensée. Tout est filtré à travers cela. Ce qui fait que les gens ne répondent pas à l'appel de Dieu sur leur vie parce que il n'y a pas d'argent là-dedans ça. Ah. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes professionnellement qui me disent « Tu es pasteur, ils te payent ?» Non. Oh, tu fais ça gratuitement? Vous auriez pensé que j'avais dit un gros mot. Le choc et le... Mais, non mais, t'es sérieuse? Ouais? Matérialisme. Et après, vous passez pour un saint personnage. Et certains diraient, mais ça paye pas. Mais ça paye pas bien, ce truc. Non, ça paye même pas du tout. Schéma de pensée matérialiste. Et beaucoup de gens, à cause de ce schéma, passent à côté de l'appel de Dieu sur leur vie. Parce qu'ils vont regarder. Il y a même des gens, il y a des gens qui sont invités à être pasteurs dans telle église. Quel est le salaire? OK, il nous faut tel montant. Il nous faut ça pour mon épouse. Il nous faut ça comme assurance. Il nous faut ça. Il nous faut ce type de maison. Il nous faut ce type de voiture. Et si vous n'êtes pas en mesure de fournir ça... Chercher un autre pasteur ailleurs. Un pasteur pauvre, de préférence. Et tout ça parce que Dieu nous a délivrés de la pauvreté. Non, mais il nous a aussi délivrés du matérialisme. Il y a de ces schémas de pensée qui influencent nos vies. Je regardais une interview dans Serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment aujourd'hui. Mais puissamment. Lui et son épouse, puissamment dans le monde entier. Et avant, il était scientifique dans le nucléaire. Et gagnait un quart de million de dollars par an, donc ce qui est à peu près aux alentours de 20 000 euros par mois, je pense. Moi, j'ai fait mon petit calcul, c'est peut-être pas ça, mais 250 000 dollars minimum par an. Ça, c'est le salaire de base. Et donc, il vivait bien. Vous êtes d'accord que sur l'équivalent de 200 000 euros par an, vous vivrez plutôt bien. Hein? 230 000, ok. Pas long à l'appauvrir. Donc, il lui et sa femme pendant de longues années. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit qu'il voulait qu'il quitte tout, qu'il vienne le servir. Ah, oui, mais Seigneur, je viens, mais il y a un petit souci. Les finances, on vit plutôt bien là. Et ça ne veut pas dire que Dieu va vous dire, tu vas me servir et tu vas vivre dans la pauvreté. Non, parce qu'il nous a délivrés aussi de la pauvreté. Mais souvent, les gens ne voient pas et donc laissent le matérialisme les empêcher d'obéir à Dieu, de choisir la voie que Dieu leur donne. Et il a beaucoup hésité, donc il a dit, bon, écoute, si c'est vraiment ça, tu parles à ma femme. Donc, il en a parlé à sa femme et sa femme, c'était tout de suite, elle a pensé à son shopping. Elle a pensé à sa vie. En plus, il venait d'acheter une nouvelle maison. Et elle lui a dit, mais va prier, va prier. Ce que Dieu te dira, on verra. Et sa femme est allée prier et la nuit, toute la nuit, Dieu lui disait, est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance? Toute la nuit, ça revenait, est-ce que tu peux me faire confiance? Et après, le Seigneur lui a rappelé un jour, une dizaine d'années auparavant, C'est là où ils venaient d'acheter une nouvelle maison. Ils avaient mis en leur jacuzzi, leur super salle de bain. Et elle était dans cette super salle de bain, dans un jacuzzi, se préparant pour ses affaires habituelles, les courses, etc. Et le Seigneur lui a parlé. Il dit, mais, prends ton plaisir maintenant, parce qu'un jour viendra, vous allez laisser tout ça derrière. Elle a eu cette pensée de, c'est quoi ça? Ah non, non Jésus, va-t'en. Et le lendemain du jour où son mari lui avait dit qu'il devait tout quitter pour aller dans le ministère, après que le Seigneur lui a passé la nuit à lui demander de lui faire confiance, il lui a rappelé ce jour-là. Elle s'est revue ce jour-là, elle a revu la scène. Elle dit, c'est de ça que je te parlais. Ils ont demandé d'autres confirmations que le Seigneur a données. Et aujourd'hui, ils sont épanouis dans ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé ce schéma de matérialisme. Nous ne jugeons pas. Les gens, ils filtrent tout par le matériel. Qu'est-ce que cette personne va pouvoir m'apporter matériellement? C'est la valeur que je vais lui donner. On passe à côté de relations extraordinaires. Extraordinaires. Des gens que Dieu utilise dans nos vies parce que tout ce que nous voyons, c'est ce côté-là. Des schémas de pensée qu'il faut briser. Schéma de pauvreté, schéma de matérialisme. Parfois, quand les gens sont tellement matérialistes, ils ne nous donnent pas. Quelqu'un disait un jour, j'étais avec des serviteurs de Dieu, et on parlait, et l'un d'entre eux disait, oui, parfois c'est difficile pour les gens quand ils n'ont pas beaucoup de données. Non, ce n'est pas ça le problème des gens, c'est qu'ils ne veulent pas donner. Parce que quand on gagne, à l'époque c'était les francs, quand on gagne 4000 francs par mois, c'est moins difficile de donner 400 francs que de donner 40 000 quand on va gagner 400 000. Parce que aujourd'hui on parle d'euros. C'est quoi le SMIC?
1300 euros.
D'accord. Vous allez dire, si quelqu'un gagne 1300 euros, donner 130 euros, c'est beaucoup. Non. C'est 10%. Alors, quand la même personne va gagner 130 000 euros, vous pensez qu'il va pouvoir donner facilement 13 000? Non. Avec 13 000! Mais c'est 10 plus 3, mais c'est quand même. Non, mais fais le calcul toi-même. C'est beaucoup. Matérialisme. Et ce sont des schémas de pensée que Dieu doit casser dans nos vies avant qu'il puisse même nous prospérer. Parce que quand Dieu prospère ses enfants, il ne les prospère pas uniquement pour qu'eux soient bien. Il les prospère pour pouvoir aussi passer à travers eux, pour bénir les autres. Pas uniquement les chrétiens d'ailleurs. Même votre voisin qui est païen, Dieu veut que vous le bénissiez financièrement. Qu'est-ce que vous croyez? Et votre oncle qui est méchant, qui ne vous arrive pas à payer son loyer, vous devriez payer son loyer. Non, ce n'est pas une parole de connaissance que je vous dis ici. Mais pasteur, vous avez dit, j'ai pris ma parole pour aller payer le loyer de mon oncle. Maintenant, je ne vais pas payer mon loyer. Non, c'est Dieu qui vous dit. Simplement que Dieu veut que nous ayons de la largesse, que nous puissions être larges et généreux. Et le matérialisme, c'est un schéma de pensée qui empêche à beaucoup de chrétiens d'être bénis. Dieu ne déverse pas de l'argent chez des gens qui gardent tout pour eux. Est-ce que vous voyez, on commence déjà à voir l'impact de ces schémas de pensée dans nos vies, n'est-ce pas? On a parlé de petitesse d'esprit. Et un autre schéma de pensée qui malheureusement afflige beaucoup de chrétiens, c'est cette anxiété constante. Tout est filtré par l'anxiété. Anxiété, angoisse. Nous avons parlé d'incrédulité. L'anxiété, l'angoisse nourrit l'incrédulité. Produit le stress et conduit à la maladie et fait prier beaucoup le pasteur. Quel que soit ce que vous leur dites, nous allons changer de salle. Nous allons prendre une nouvelle salle qui est plus grande que celle-ci. Et certaines personnes qui ont un schéma de pensée pacifique, je vais dire, yes, God is blessing us. C'est plus grand, il y aura plus de ménage à faire. Il y a des gens qui commencent à s'identifier un petit peu. Oui, mais ça avait plus de travail. Il y a plus de ménage à faire, il y a plus de nettoyage à faire. Ça veut dire que ça va être un peu plus difficile pour poser les gens. Et les gens de la caisse, c'est, oulala, c'est plus grand, il faut qu'on soit plus nombreux parce qu'on ne va pas pouvoir. Comment est-ce qu'on va se positionner dans la salle? Tout de suite, anxiété, inquiétude. Oh, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il y a des gens qui s'inquiètent de tout. Et quand ils ont fini, ils disent, oh non, on ne va pas changer de salle, on va rester dans la petite salle. quel que soit ce que vous leur dites, ils trouvent un moyen de trouver quelque chose qui va être en souci. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. L'opposé de l'anxiété, c'est la paix. La paix. L'opposé de l'incrédulité, c'est la foi. L'opposé de l'anxiété, c'est la paix. Et quand les gens sont anxieux, ils sont anxieux surtout. Et quand on est anxieux, on est aussi indécis. Ça, c'est encore c'est un schéma de pensée qui afflige beaucoup de gens. L'indécision. Tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous vous dites, donc on va faire ça. Ok, ah, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Tu penses que, vraiment, tu es certaine, tu as prié? Oui, oui. J'ai prié maintenant, je sais. Je ne sais pas. Donc, quand je suis à la maison, est-ce que je le fais? Je ne le fais pas. Amen. Alléluia. Peut-être que... Il y a toujours une autre possibilité. Mais il faut en choisir une. Il y a toujours une autre possibilité. Il y a toujours un autre garçon que tu peux épouser. Mais il faut choisir un. La polyandrie n'est pas de mise. Il faut choisir un. Il y a toujours une autre fille. Et parfois même plus jolie. Mais il faut choisir une. Oui, mais je ne suis pas très sûre. Ah là là, je suis sûre, on va fixer la date. Parce que non. Il ne faut pas lui dire, mais enlevez la date. On est encore en train de prier. Ok, ça fait 10 ans que vous priez. Oui, mais on va prier encore un peu. Peut-être que si depuis 10 ans, ce n'est pas ça, c'est peut-être pas ça du tout, arrêtez. J'ai eu à faire ça avec un couple il y a des années de cela, mais attendez, ça fait combien d'années là que vous cherchez la face de Dieu? Si Dieu n'a pas encore dit oui, c'est peut-être non. Finalement, c'était non. Autre schéma de pensée qui est très destructeur, c'est la méfiance. La méfiance. Constante, la méfiance. On va voir par la suite, la semaine prochaine certainement, d'où nous viennent ces schémas de pensée. Parce que parfois, pour pouvoir nous en débarrasser, il faut que nous sachions d'où ils viennent. La méfiance. Ah, moi, j'ai confiance en personne. Les êtres humains. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Elle a dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Nous, on va prier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je pense qu'il a dit ça, mais on va voir. Même vis-à-vis de Dieu. C'est important d'identifier ces choses et de penser qu'il n'y a pas que du mal. Il y a beaucoup de mal dans le monde. Croyez-moi. Mais il n'y a pas que du mal. Il y a des gens bien comme moi. Et comme vous. Alléluia. Glory to God. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas tordu. Enfin, depuis Jésus. Jésus est passé par là. Amen. Glory to God. C'est vrai qu'il y a des gens tordus, malheureusement. Pas à ma house. Amen. Amen. Il y a des gens tordus. Et comme nous allons voir la semaine prochaine, c'est aussi à cause de ces expériences que souvent il y a de ces schémas de pensée. Mais c'est important de les identifier et de dire, mais je suis tout le temps méfiant. Tout ce qui me vient, je suis... Il n'y a jamais de confusion. J'avais ce schéma de pensée, surtout vis-à-vis des chrétiens, des gens religieux. J'avais beaucoup de méfiance. Tout ce qui était Dieu, c'est de la manipulation mentale. C'est pour ton argent. Je n'avais pas, mais c'était pour mon argent. Et c'était... attention, il dit ça, mais... il faut voir ce qu'il y a derrière. Et Dieu a fait un revirement à 180 degrés et j'étais allée dans le sens extrême, dans l'autre sens, avec cette confiance. Jusqu'à ce que le Seigneur revient au milieu. Nous avons besoin que Dieu change ces choses en nous. Nous avons besoin de nous y attaquer. N'est-ce pas? Nous avons besoin de nous y attaquer. Parce que nous pouvons passer vraiment à côté de ce que Dieu a pour nous si nous avons un excès de méfiance. Soupçonner le mal partout. Chez tout le monde. Vous avez quand même à regarder. Vraiment. Besoin de délivrance. En tout cas, si Dieu n'était pas là pour nous. je viens de fermer la porte à quelqu'un que Dieu aurait utilisé pour bénir ma vie. Il y a aussi l'inverse, c'est l'absence de discernement. Il y a des gens qui, tout ce que vous leur dites, oui, 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 d'accord. On va ensuite, oui, en Australie, oui, en même temps, oui. On peut jugeote. Vous voyez comment on peut passer d'un extrême à un autre. Et ce n'est pas simplement une situation, c'est quand c'est systématique dans nos vies. Quand nous pensons des choses finissent par entrer en nous, s'ancrer en nous, et on pense que c'est ma personnalité. Tant que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas votre personnalité. C'est quelque chose que le diable a semé en vous et que vous devez déraciner. La méfiance. Et dans le même groupe de schémas néfastes que vous avez l'anxiété, l'inquiétude, la méfiance, il y a aussi le manque de pardon, la vengeance. Il y a des gens qui sont inflexibles. Inflexibles. S'ils ne se sont pas vengés, ils ne sont pas heureux. Et se venger ne veut pas dire poignarder l'autre. Parfois, c'est juste, moi aussi, je vais en placer une. Elle a fait cette remarque devant tout le monde. Maintenant, au travail, tout le monde pense que moi, je cherche l'occasion. Dès que l'occasion se présente, oh! Et systématiquement, c'est comme ça. Je ne peux jamais accepter que, bon, ça ne s'est pas fait comme moi je voulais, ou on a dit quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Ce n'est pas grave. Non, mais il faut systématiquement intervenir, il faut me faire justice, il faut la vengeance, il faut mettre la personne à sa place, il faut la tailler. Et tout ça, je spiritualise. Seigneur, rends-moi justice. À ma manière. Toutes ces choses sont les œuvres de la chair qui s'opposent à l'action de Dieu en nous. Mais nous avons ces fonctionnements et ces manières de penser, d'appréhender le monde, de réagir à des situations et que souvent nous considérons comme étant normal ou parfois dire, oh, Seigneur, pardonne-moi, ah, je n'aurais pas dû faire ça. Mais c'est ton fonctionnement qu'il faut casser. Ce n'est pas juste au coup par coup demander pardon. C'est prendre la décision pour dire, Seigneur, moi, je veux être en phase avec toi. Je veux penser comme tu penses. Je veux vivre pleinement ces retrouvailles divines pour lesquelles Jésus est venu. Identifier à Dieu, corps, âme et esprit. Me voir comme tu me vois, voir les autres comme tu les vois, te voir comme tu te vois. Bien sûr, quand vous avez ce genre de choses, vous avez aussi l'hypocrisie, n'est-ce pas? Le psaume 55, verset 21, nous dit ceci, « Sa bouche est plus douce que la crème. » J'aime cela. Sa bouche est plus douce que la crème. Voyez qu'on ne peut pas toujours se fier à ce que les gens disent. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Et certains d'entre nous, nous sommes comme ça. Oh! Oh, là, c'est gentil, merci. N'importe quoi. Et nous pensons que nous sommes les gens bien parce que nous ne mettons pas les gens à leur place comme il faut. Nous, on est gentils, on leur dit des paroles gentilles, mais il y a la guerre dans nos cœurs. Et c'est systématique. Systématique. Ah, ça, ma sœur. Gloire à Dieu. Un Dieu t'a béni avec les cheveux que tu as. Et en plus, on marie beau comme le tien, là. T'inquiète pas, on veille sur lui. On laisse personne s'approcher de lui. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Heureusement que je suis quelqu'un qui pardonne. Parce que cette fille. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Edwige? Ça va? Ou, tu as un problème avec elle? Oui, parce que. Ah. Oui, je vais te dire. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Je ne parle pas de. Mais cette fille! Cette fille! Ah! Ah, Seigneur, ta grâce. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Je vais terminer en vous invitant à faire attention à la fausse doctrine. Je vous ai souvent dit que quand on a commencé au début de l'Église, de temps en temps encore ça arrive maintenant, mais surtout au début, est toujours une série de gens qui venaient pour me proposer leur doctrine préférée. On aurait adopté ne serait-ce le quart de ces doctrines, on serait dans la confusion la plus totale aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gens qui spirituellement sont dans une confusion totale. Et leurs pensées sont remplies de confusion. Nous avons vu, lorsque nous avons vu les lettres aux églises, à quel point la fausse doctrine peut détruire des gens et détruire des églises. N'est-ce pas? Nous sommes censés garder nos pensées. La parole de Dieu nous dit de garder nos cœurs par-dessus toutes choses. Et donc, faire attention à ce que nous laissons les gens semer en nous. Faire attention aux influences spirituelles que nous subissons. Je me souviens, il y a des années de cela, j'ai participé à la création d'une église. Il y a une femme qui venait. Cette femme avait la tête remplie de toutes sortes de doctrines. Elle en était même devenue quasiment folle. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous la voyez, vous ne voyez pas tout de suite. C'est quelqu'un qui a des paroles comme la crème. Et elle parlait, et elle essayait de prendre autorité sur moi, spirituellement. Vous savez, quand vous êtes un peu frêle, je suis un peu moins frêle maintenant, frêle physiquement, les gens ont comme l'impression que vous ne savez pas grand-chose. Et on avait de ces discussions, et avec une amie qui était avec nous, on priait beaucoup pour elle, parce que c'était, il y a un problème avec cette femme. Oh, quand vous lui parlez, ça semble parfaitement normal. Mais tout ce que vous lui dites, comme vous avez l'impression que rien ne passe, parce qu'il y a tout ce schéma de fonctionnement, ces doctrines qu'elle avait dans la tête, et rien ne passait, rien ne passait. Parce que c'était construit en schéma de fausseté totale. En plus, elle n'habitait pas loin de chez moi, donc quand on revenait de la réunion de prière, on partait ensemble, qui m'ont encore me donné quelques minutes supplémentaires de ses efforts. Elle avait rencontré un serviteur de Dieu, et on discutait. Et j'ai regardé comment ce serviteur de Dieu s'est laissé influencer par cette femme. Moi, il ne me considérait pas du tout. Elle, parce qu'elle s'exprimait bien. Il s'est totalement laissé influencer. Moi, je le regardais, je dis, waouh, pourtant c'est un serviteur de Dieu. À l'époque, je n'étais pas encore dans le ministère. Je dis, pourtant c'est un serviteur de Dieu. Il devrait quand même discerner que cette femme est un peu spéciale. Mais je me suis dit, ben, c'est lui qui sait. Il n'a pas demandé mon avis. Il a le même esprit saint que moi. De toute façon, il ne m'écoutait pas. J'essayais de lui dire, non, il ne m'écoutait pas. Je l'ai revu, ce serviteur de Dieu. Entre-temps, ils se sont revus et discutés. Quand je l'ai revu, il m'a dit, mais elle est folle, cette femme. J'ai dit, vous vous en êtes rendu compte? Oui, parce qu'au début, j'ai dit, oui, je voyais au début, vous pensiez que... Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? C'est que les gens, à force de côtoyer des fausses doctrines, se bâtissent une structure mentale où tout doit passer par ces doctrines-là. Et ce qui ne passe pas par ces doctrines-là, pour eux, c'est inacceptable. Vous attirez leur attention sur l'excellence de Christ. Tout ce qui n'est pas de leur doctrine, ce n'est pas bon. Et ça va de plus en plus loin. Je ne sais pas comment elle a fini cette femme, mais je me souviens que je l'avais vue. Encore quand je la connaissais, c'était quelqu'un qui se présentait bien, etc. Mais quand je l'avais vue, la dernière fois que je l'avais vue, je la voyais, elle marchait dans la rue, elle se parlait à elle-même. Elle marchait dans la rue, elle était habillée, mais je la regardais, elle ne me reconnaissait même plus. Elle ne me reconnaissait plus, elle se parlait. Je la regardais, je dis, wow, Jesus. C'est vraiment très important d'être attaché à la saine doctrine. Dites la saine doctrine. Donc, Corinthiens 11, du verset 1 au verset 3. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Et vous savez que cette église de Corinthe a reçu longuement le ministère de Paul. Il a enseigné longuement dans cette église. Il leur a fait connaître la parole de Dieu, comme il l'a fait à Éphèse d'ailleurs. Et on se souvient que Jésus a félicité l'église d'Éphèse sur leur doctrine. N'est-ce pas? Eh bien, l'église de Corinthe était une église toujours troublée. Même de la vie de Paul, il y avait toujours des petites histoires dans cette église. Toujours des petites histoires. Par ailleurs, heureusement qu'il y avait des petites histoires, parce que nous avons beaucoup de choses qui nous apprennent, nous aussi, grâce à leur exemple. Mais il y avait aussi là-bas des doctrines bizarres. Et il disait, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, ça c'est l'apôtre Paul, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Ça, c'est un vrai père et une vraie mère spirituelle va être jaloux d'une jalousie de Dieu pour veiller sur vous, pour que vous ne vous laissiez pas corrompre. D'autres qui sont enflés d'orgueil, tout ce qu'ils veulent, c'est leur théologie et leur théorie. Qu'importe l'impact sur les gens, nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veillez sur nos pensées. Il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Nous devons veiller à ce que nos pensées ne se corrompent pas. Ne se corrompent pas. Et qu'elles ne soient détournées de la simplicité de Jésus. Quant au bélier de l'Apocalypse, si vous ne comprenez pas, ça ne change rien à votre salut. Ne vous laissez pas mépriser par les gens qui savent exactement la date du retour de Jésus. Et par leur interprétation fallacieuse de l'Apocalypse. Et si vous ne suivez pas leur interprétation, c'est que vous n'avez rien encore compris. Ah bah, vous n'avez rien compris encore. Mais je vais t'expliquer. Tu vois, c'est la trompette. Hein? La trompette. Tu connais la signification de la trompette? Parce que la trompette, ce n'est pas une trompette. C'est une trompette. T'as pas compris? Oh. T'as pas compris?
Non,
les églises manquent de révélation. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les trompettes, et vous avez des gens qui sont enfermés dans ce genre de schéma, qui sont enfermés dans les interprétations de plus en plus fallacieuses, de plus en plus spéculatives. Et quand on leur parle de Jésus, ah non, c'est trop rudimentaire tout ça. C'est important de garder nos pensées. Et je vais vous demander cette semaine de méditer sur deux mots, l'insécurité et l'infériorité. Ce sont deux schémas de pensée qui en réalité explique beaucoup des autres que nous avons vus. L'insécurité et le sentiment d'infériorité. L'insécurité est facilement, on en guérit facilement. Et beaucoup de gens, à cause du sentiment d'insécurité, mettent des choses en place pour se faire valoir, pour ceci, pour cela, réagissent à cause de l'insécurité. Ils ont une réaction démesurée par rapport à ce qu'on leur dit, ne font confiance à personne, ou ne croient rien, ou ne croient pas que quoi que ce soit soit possible, ou ont toujours une mentalité de défaite à cause de leur insécurité, ou du sentiment d'infériorité. Le matérialisme, sentiment d'infériorité, pour que je sois quelqu'un, il faut que l'argent soit présent, et il faut que je mette en avant mon argent pour que les gens sachent que moi, je suis quelqu'un. Infériorité, mentalité de victime. Tu joues contre moi, c'est contre moi, c'est contre moi, c'est pour vous de moi. Moi. Jésus, heureusement que tu es venu pour moi. Mais il est venu que pour toi. Beaucoup, sinon la grande majorité, sinon tous ces autres schémas de pensée, ces pensées qui nous assaillent, ces pensées négatives, ont leurs racines dans l'insécurité et dans l'infériorité, le sentiment d'infériorité. Je vais vous inviter à méditer sur cela cette semaine et à commencer à prier pour vous-même par rapport à ces deux choses, par rapport à chacun de ces points que nous avons évoqués. Si vous vous identifiez, pourquoi nous passons du temps? Je peux très bien vous dire, oui, il y a les schémas de pensée négatifs. Bon, débarrassez-vous-en. Mais en les exposant un par un, on commence à se dire, aïe, ça c'est moi. Aïe, ça c'est encore moi. Aïe, ça c'est moi. Ah, je ne savais pas que c'était ça. Je pensais que c'était ma personnalité. Non, ce n'est pas ta personnalité. Ta personnalité, c'est rachetée, bénie, transformée. Celle qui appartient à l'Éternel, la prunelle de ses yeux. Ça, c'est ta personnalité. Toute pensée, tout schéma de pensée, toute attitude, et l'attitude d'ailleurs est la consolidation de tous ces schémas de pensée qui conduisent à une certaine attitude. Toute attitude donc qui ne correspond pas à ce que Dieu dit vous concernant vient de l'enfer et ne doit pas continuer à exister dans votre vie. Et c'est une décision de dire je m'en débarrasse. Glory to God.
Amen.
La solution ce n'est pas que le pasteur soit plus gentil avec Béa, c'est que Béa change de manière de penser.
Amen.
Qu'elle arrête de faire « Je ne peux pas. » Glory to God. Hallelujah. Et nous allons nous rendre compte à quel point les gens peuvent être gentils quand nous, on change. Parce que notre attitude est une semence.
Amen.
Et nous moissonnons ce que nous semons. Et toutes vos pensées vont inéluctablement influer sur votre comportement, votre attitude envers les gens. Vous pouvez bien sûr avoir le schéma de pensée de l'hypocrisie. Là, c'est « Wow !» Wow, glory to God. Ah, ma soeur, tu es trop forte. Hallelujah. Oh, n'importe quoi. Cette Oriane, vraiment, il faut qu'elle soit sauvée. Ça, c'est un schéma d'hypocrisie qui défie tous les autres. Mais en fait, pour la majorité d'entre nous, ces pensées vont conduire à une attitude qui vont, d'une façon ou d'une autre, provoquer une réaction similaire de la part de la personne. N'est-ce pas? Quand je me crois rejetée, j'ai une attitude où je m'enferme sur moi-même. Et quand je m'enferme sur moi-même, je vais vers Flo, mais je suis enfermée sur moi-même, mais sans que je suis enfermée, et elle ne peut pas me percer, donc elle est un peu sous ses gardes, et après, je pars, elle m'a rejetée. Vrai ou faux? Mais quand je la vois, oh, et je suis visiblement contente de la voir, non, pas dans l'hypocrisie, mais visiblement, elle est un peu, petit à petit, elle commence à fondre. Et elle commence à fondre. Et elle commence à dire, ah, il y a une fille ici qui m'aime beaucoup. Elle commence à fondre. Au bout d'un moment, c'est... Il est interdit à bien, oh, on ne me saute pas au cou. Il y a des gens qui aiment. Bon. Avec beaucoup d'amour. Glory to God. Glory to God. Mais nous voulons nous débarrasser de ces schémas de pensée. Parce que ces schémas de pensée bloquent ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et ces schémas de pensée nous poussent davantage dans le péché. Qui est un autre schéma de pensée? Le schéma de pensée de la perversion. Le schéma de pensée du péché. Quand vous méditez constamment sur le péché, vous allez en commettre beaucoup. Déjà, vous en avez commis en y méditant. Parce que Jésus a dit que quand vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Donc, rien que la convoiter, c'est déjà un péché. Ça s'est passé à l'intérieur, mais c'est un péché. Maintenant, vous allez passer à l'acte, c'est encore un péché supplémentaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand vous me dites, où c'est marqué dans la Bible qu'il ne faut pas regarder la pornographie sur Internet, vous péchez dans votre cœur. Vous convoitez une femme, un homme dans votre cœur, c'est déjà un péché. Glory to God. Vous seriez étonné de ce que les gens demandent. Où c'est marqué dans la Bible? Où c'est marqué dans la Bible que vous venez à l'église à 9h30? Glory to God. Ces schémas de pensée, nous devons nous en débarrasser. Quand vous vous asseyez pour méditer longuement sur le péché, vous allez en commettre... Vous allez avoir des fixations. Parfois aussi, on fait des fixations sur certaines choses. Par exemple, j'ai une amie qui me disait, « Ah non, moi, le gars que je vais épouser, chest. Chest. » On avait 21 ans, 22 ans, c'était chest. Et donc, quand ton garçon venait, elle les va, est-ce qu'il a chest? En d'autres, il faut qu'il soit baraqué. J'étais là, bien baraqué, musclé, pendant toute notre jeunesse, c'était chest, chest. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous bloque. Mentalement, vous avez créé un blocage. Il y a des garçons qui sont bien et qui ne sont pas chest. N'est-ce pas, messieurs? Il y a de l'espoir, bobo. Il dit, ouh, c'est comme ça que les femmes posent. Aïe, aïe, aïe. Mais je dis à ma mère, je commence le sport demain. Et parfois, c'est les hommes, il faut que ce soit une brunette. Vous savez ce qui se passe? J'ai écouté un psychiatre qui disait que, serviteur de Dieu aussi, dans la gestion qu'il faisait des gens qui avaient tombé dans le péché, il constatait une chose. C'est que quand les gens ont une fixation, quand ils se sont dit, quand les hommes se sont dit avant le mariage, je vais épouser une blonde, et que Dieu leur amène leur épouse et que c'est une brunette, ils vont l'épouser, ils vont être heureux, jusqu'au jour où ils rencontrent une blonde. Pas n'importe laquelle, mais celle sur laquelle ils ont fantasmé. La fixation qui s'était faite dit, c'est ce genre de femme qu'il faut que j'aie. Le jour où ils vont rencontrer une femme qui ressemble à cela, les défenses disparaissent. Cette personne qui a vécu fidèle à sa femme pendant de longues années, tout d'un coup se dit, mais c'est elle, c'est la femme de mes rêves. Et que systématiquement, ces hommes tombaient dans le péché. Pourquoi? Un schéma de pensée. Un schéma de pensée. Avant de dire, il faut qu'il soit chest, demandez au Seigneur. Parce que souvent aussi, les gens vivent dans l'insatisfaction avec ce que Dieu leur a donné parce qu'ils s'étaient fait une fixation sur un autre type. Glory to God. Hallelujah. Mais nous voulons faire tomber toutes ces barrières mentales. Amen. Nous voulons faire tomber toutes ces barrières
mentales.
Et mon ami a fini par se marier avec un homme qui n'était pas chest.
Amen.
Mais c'était celui que Dieu avait pour elle. Et il a été un merveilleux mari pour elle.
Amen.
Merveilleux Marie, certains les connaissent d'ailleurs. Merveilleux Marie pour elle. D'ailleurs, je ne vois aucun homme qui aurait pu être un meilleur mari que lui. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Parce que je sache, on ne sait jamais tout dans un couple. En toute honnêteté. C'est important de nous débarrasser de ce schéma. Pour que nous puissions non seulement recevoir ce que Dieu a pour nous, mais nous satisfaire de ce que Dieu a pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et beaucoup des problèmes maritaux sont dus au fait qu'on s'est créé des images dans la tête qui ne correspondent pas à ce que l'on a. Et ce n'est pas parce que ce que l'on a n'est pas bon, c'est parce qu'on doit changer notre schéma de pensée. Est-ce que vous me suivez? Que ce soit au niveau de l'apparence physique, que ce soit au niveau du caractère, de la personnalité, pourquoi elle n'est pas un peu plus comme moi? Parce qu'elle n'est pas toi. Pourquoi toi, tu n'es pas un peu plus comme elle? Parce que tu n'es pas elle. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça a été intéressant d'ailleurs de voir travailler ensemble Flo, Flo et Béa. C'est très, très intéressant. Elles sont tellement différentes. Et parfois, je dis, mais j'ai dit à Béa, j'ai dit à Flo que je suis, ouais. Et moi, on regardait, on dit, quelle différence. C'est ça, l'amour dans la différence. Au sein de l'Église, nous sommes différents. Les gens ont un schéma dans leur tête, comment l'Église doit être. Et quand l'Église ne correspond pas au schéma qui se sont faits dans leur tête, c'est que l'Église n'est pas bien. Non, c'est toi qui dois changer ton schéma. Est-ce que vous me suivez? Remercions le Seigneur pour sa parole.